Nous sommes profondément reconnaissants de la manière inspirée avec laquelle les dirigeants de partout dans l'Église ont réagi à la présentation des nouveaux manuels d'instruction. Mon but, au cours de cette formation, est de clarifier quelques principes clés et de couvrir certains points importants du tome 2. Comme nous l'ont si bien enseigné le président Eyring et frère Oakes, trois principes de base résument les changements majeurs. Le manuel 2 s'appuie sur la doctrine, facilite le service et la révélation, offre souplesse et simplification. Comme l'a souligné frère Oakes, la responsabilité des conseils de paroisse et de pieux a été grandement augmentée. Certains évêques ont demandé s'il existait une distinction claire entre ce qui doit être traité en réunion de CEP et ce qui doit l'être en conseil de paroisse. La réponse générale figure dans les sections 4.3 et 4.4. Le CEP se réunit régulièrement pour examiner les affaires de la prêtrise, comme les responsabilités des collèges de la prêtrise, les ordonnances et les bénédictions, les appels et les relèves, certains points relatifs au temple ou à la mission et l'administration de l'action disciplinaire. Généralement, le CEP n'a pas besoin de discuter des questions qui vont être abordées par le conseil de paroisse. Toutefois, il peut être bénéfique que le CEP commence à discuter de certains points qui vont être à l'ordre du jour du conseil de paroisse. Le conseil de paroisse, lui, n'examine que les sujets pour lesquels la coordination et la discussion seraient bénéfiques et qui le sont d'un intérêt général pour toute la paroisse. La participation de tous les membres du conseil, les sœurs en particulier, est essentielle pour que son potentiel de révélation soit atteint. À la fin de la discussion du conseil de paroisse, l'évêque peut décider si une décision est appropriée ou s'il se sent inspiré, prendre la décision lors d'une prochaine réunion d'épiscopat ou de CEP. Bien qu'il n'y ait aucune ligne clairement tracée entre les deux conseils, exécutif de la prêtrise ou de paroisse, trois objectifs principaux peuvent guider les évêques afin de déterminer lequel solliciter. Premièrement, alléger la charge de l'épiscopat. Deuxièmement, augmenter la délégation et la révélation dans les conseils. Et troisièmement, éviter une rigidité qui pourrait nuire à l'inspiration. Nous prions aussi pour que le bon sens et la direction de l'esprit prédominent. Le chapitre 6 couvre les principes d'entraide. Il décrit l'objectif de l'Église dans ce domaine et indique comment l'épiscopat et les membres du conseil de paroisse doivent coopérer. Bien que les réunions de comités d'entraide n'aient plus lieu, les principes d'entraide sont essentiels et sont soulignés plus que jamais dans le manuel. Le président du Collège des Anciens, le chef de groupe des grands prêtres et la présidente de la Société de secours travaillent avec l'épiscopat pour répondre aux besoins d'entraide à court et à long terme. Ils peuvent déléguer largement pour atteindre cet objectif. L'évêque peut inviter la présidente de la Société de secours à assister au CEP pour discuter de questions d'entraide confidentielles. Le chapitre 7 traite de la prêtrise de Melchizedek. La présidence du Collège des Anciens et les dirigeants de groupes des grands prêtres reçoivent des instructions de la présidence de pieux et sont instruits par des membres désignés du Grand Conseil. Ils rencontrent régulièrement l'évêque pour recevoir des conseils et des directives. L'un des rôles importants que nous voyons dorénavant pour les dirigeants de la prêtrise est qu'aux côtés de membres expérimentés de leur collège, ils traitent beaucoup de problèmes, y compris certaines questions de dignité préalablement traitées par l'évêque. Un exemple, si un membre qui a des difficultés avec la pornographie donne son accord, l'évêque peut désigner un grand prêtre expérimenté qui lui donnera des conseils suivis et coordonnera d'autres formes d'assistance dont le membre peut avoir besoin. Le chapitre 8 traite de la prêtrise d'Aaron. Deux principes sont à mentionner. Premièrement, les parents sont les premiers responsables du bien-être spirituel et physique de leurs enfants. L'épiscopat et les autres dirigeants de la prêtrise d'Aaron soutiennent les parents, mais ne les remplacent pas dans cette responsabilité. Deuxièmement, en déléguant davantage beaucoup d'autres responsabilités, l'épiscopat qui préside la prêtrise d'Aaron dans la paroisse aura plus de temps pour veiller sur les jeunes. Le chapitre 13 porte sur les activités. Comme vous le savez maintenant, il n'y a plus de comité d'activité permanent. Il est prévu que ce soit le conseil de paroisse qui s'assure que les raisons et objectifs exposés au chapitre 13 sont atteints et que des activités sont mises au calendrier longtemps à l'avance. Certains dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires ont demandé si le fardeau de la planification et de l'exécution des activités allait dorénavant reposer sur eux. Normalement, quand une activité est destinée à l'ensemble de la paroisse, l'évêque en confiera la responsabilité à une ou plusieurs auxiliaires, à d'autres personnes ou à un comité temporaire travaillant sous la direction du conseil de paroisse. Généralement, la responsabilité qui est confiée aux dirigeants d'auxiliaires ou de collèges consiste en un rôle de supervision. Ces dirigeants délègueront presque toujours la responsabilité de planifier et d'exécuter les activités à d'autres membres de leur auxiliaire ou de leur collège. Le chapitre 13 donne également des instructions concernant la planification des activités et contient des directives générales pour les activités de pieux, multipieux et interrégionales. Le président Monson recommande fortement qu'il y ait un nombre adéquat d'activités de ce genre. Il a demandé en particulier que nous soulignions les règles et directives énoncées à partir de la section 13.6, comme la prévention d'accidents, la supervision par les adultes et les précautions de sécurité. En tant que dirigeant de l'Église, vous devez vous assurer de bien connaître ces règles et directives et veiller à ce qu'elles soient suivies. Dans le monde d'aujourd'hui, le chagrin et les responsabilités juridiques qui découlent de toute tragédie liée à l'Église sont une question grave. Le chapitre 16 concerne les membres seuls. Presque toutes les unités de jeunes adultes seuls se trouvent en Amérique du Nord. La présidence des 70 supervisera les changements indiqués dans le manuel d'instruction concernant ces paroisses et ces pieux. Dans le reste du monde et dans une grande partie de l'Amérique du Nord, il sera peu nécessaire ou approprié qu'il y ait des paroisses de jeunes adultes. En général, nous bénissons les jeunes adultes seuls quand nous les laissons dans le secteur géographique d'une paroisse ordinaire, où ils sont bien connus par les dirigeants de la prêtrise et où ils ont des appels. Mais ce serait incomplet si nous ne leur fournissions pas des activités de pieux, multipieux, interrégionales, pour répondre aux besoins qu'est le leur de rencontrer d'autres personnes et pour favoriser les fréquentations et le mariage. C'est l'approche privilégiée. Le chapitre 20 couvre les ordonnances et les bénédictions de la prêtrise. Il peut s'avérer utile d'avoir des explications supplémentaires concernant la participation à une ordonnance ou à une bénédiction par un père qui détient la prêtrise de Melchizedek. En raison de l'importance éternelle du rôle du père de famille, le nouveau manuel autorise les présidents de pieux et les évêques, selon les directives de l'Esprit, à permettre aux pères qui ne sont pas pleinement dignes d'aller au temple de participer à des ordonnances et bénédictions de membres de leur famille. Par exemple, un père qui a du mal à payer intégralement sa dîme ou d'être plus à l'écoute des devoirs de l'Église et de la prêtrise peut, avec sa famille, être fortifié s'il bénit un nouveau-né. Le précédent manuel ne lui permettait pas de le faire. Les présidences devront avoir l'inspiration, exercer un discernement juste pour déterminer ce qu'il convient de faire. On ne permettra pas de participer, ainsi qu'aux détenteurs de la prêtrise qui n'ont pas commis de péché grave non résolu. L'autorisation exceptionnelle est qu'un père qui détient la prêtrise de Melchizedek sans être pleinement digne d'aller au temple, mais n'ayant pas de péché grave non résolu, peut bénir ses enfants, baptiser ses enfants, ordonner ses fils à un office de la prêtrise d'Aaron. Ces pères peuvent aussi participer, sans être la voix, à la confirmation de leurs enfants, l'octroi de la prêtrise de Melchizedek à leurs fils, la mise à part de leurs femmes ou de leurs enfants. En conclusion, je suis certain, comme le président Eyring en a témoigné, qu'une plus grande mesure d'inspiration, de révélation et de bénédiction de l'Esprit soutiendra nos efforts si nous chérissons et utilisons fidèlement ces manuels. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.